RFI. Grand reportage.
En France, comme dans de nombreux pays du monde, des applaudissements chaque soir à 20h pour remercier, encourager les personnels soignants en lutte contre le Covid-19, un virus qui, sur la planète, continue de faire des victimes et de semer l'incertitude. La situation sanitaire semble s'être améliorée en métropole après des mois d'une crise sans précédent. Avec les reportages de l'ensemble de sa rédaction, RFI vous fait revivre aujourd'hui et demain ces événements qui marqueront l'histoire du pays. Premier volet de ce récit sonore, du mois de janvier au mois d'avril, la France déclare la guerre au virus.
On ne savait pas comment gérer, on avait peur. Moi, c'est la peur qui m'a marquée. Et aussi de voir la souffrance des patients. Je me rappelle, c'est des images qui vont rester marquées à vie. De voir une personne souffrir comme ça, de mourir étouffée, qui s'agite, qui cherche l'air. Et toute seule, sans la famille. On était là, il y a mes collègues, il y en a qui sortaient, il y en a qui craquaient, il y en a qui pleuraient, il y en a qui vomissaient. Moi, personnellement, j'étais pas bien au début. Vraiment. J'avais mes collègues avec les masques périmés, avec la mousse, la noire, qui rentrait dans leurs yeux, dans la bouche. Elles avaient les yeux tout rouges. On avait que ça. On avait que ça, mais on a fait avec.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus, il est bientôt 13h, 20 minutes ensemble pour faire le tour de l'actualité de ce samedi 25 janvier. À la une, faut-il avoir peur du coronavirus en France? 3 cas identifiés sur le territoire, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. La ministre de la Santé assure que le pays est prêt à faire face.
Ce qui compte, c'est de circonscrire l'incendie le plus vite possible, d'où la nécessité de remonter l'histoire du patient, de trouver les personnes avec qui le patient a été en contact.
Agnès Buzyn a cependant reconnu qu'il était très compliqué de contrôler les multiples voies pour revenir de Chine et a donc appelé tous les voyageurs de retour de ce pays à surveiller l'apparition de problèmes respiratoires ou de fièvre.
Je recommande aux Français de Wuhan de quitter la ville de façon à se mettre dans un milieu protégé en France. Alors on sait que les Français qui seront évacués, et je pense que c'est une cause d'anxiété de la population française, on sait que ces Français évacués de Wuhan seront placés en quarantaine et seront sous surveillance médicale pointue.
Il doit atterrir à la mi-journée à l'aéroport d'Istres, près de Marseille. Un avion en provenance de Wuhan, le foyer chinois de l'épidémie de coronavirus, est en route pour la France. L'appareil militaire transporte quelques 200 Français qui vont être placés à l'isolement dans un centre de vacances de la petite ville de Carry-le-Rouet.
À contre-courant, certains habitants comme Alain refusent de céder à la psychose.
Il est quand même dans un coin un petit peu retiré. Je pense qu'il faut quand même les accueillir. Ça ne m'inquiète pas trop dans le sens où s'ils sont suivis médicalement et qui sont en quarantaine. Je fais confiance quand même à la médecine, donc je vois pas pourquoi il y aurait de problèmes particuliers.
Car la tendance générale ici est plutôt à l'incompréhension et à l'inquiétude, même si le centre de vacances est bien isolé à l'écart du centre-ville.
Écoutez, des virus, ça vole, ça essaime. Moi, il me semble qu'il faudrait prendre des mesures de sécurité.
Et c'est pour cette raison qu'une réunion d'information pourrait être organisée très prochainement pour rassurer les habitants sur les conditions très strictes de la quarantaine qui sera appliquée aux rapatriés français. Stéphane Burgat, Carry-le-Rouet, RFI.
Le parvis du Louvre est presque vide. Des Coréens et des Japonais forment de petits groupes près de la file d'attente. Cannes vend des tours Eiffel devant le musée. Cela fait plusieurs jours qu'il constate la diminution du nombre de touristes chinois.
Avant, il vient avec des dizaines de groupes. Maintenant, il ne vient pas. Seulement les Coréens, il vient, les Japonais, mais les Chinois, il ne vient pas beaucoup maintenant.
Claire s'est offert quelques jours de vacances dans la capitale française, loin de l'Australie. Ce qui l'inquiète, c'est avant tout la stigmatisation dont sont victimes les Asiatiques.
Ces virus mondiaux peuvent déclencher un certain racisme chez les gens. Et je pense qu'il est important de garder son calme et de se demander si ce virus va vous affecter. Et je ne pense pas que ce soit le cas.
I don't think the answer is yes.
Devant l'imposante vitrine rouge de Tang Frères, à l'heure du déjeuner, Philippe vient tout juste de sortir. Les inquiétudes autour du coronavirus ne changent pas ses habitudes.
Je sais que la plupart de la nourriture, de la viande, viennent de France. Donc, vous voyez, là, je vais chez Tang Frères sans masque.
Bonjour. Dans l'actualité, Agnès Buzyn l'a annoncé elle-même. Le touriste chinois de 80 ans hospitalisé à Bichat après avoir contracté le coronavirus est décédé.
Il nous faut préparer notre système de santé à faire face à une éventuelle diffusion pandémique du virus et donc à une circulation du virus sur le territoire national.
On ne sait pas. C'est qui est malade? C'est qui a seulement une grippe? On ne sait pas. L'activité, il n'y a rien du tout. Les gens, ils ont peur. Maintenant, s'il y a quelqu'un, moi je monte dans le bus ou dans le train, j'ai tous. Les gens, ils me regardent comme ça, ils disent « celui-là, il a un virus ».
Dans un coin de la brasserie, la télé est allumée, on n'y parle que du coronavirus. Je n'écoute plus, lance le barman, on en fait trop. Il préfère parler d'autres choses avec ses clients.
Le bloc-notes et le stylo, ce sont les principales armes des 200 enquêteurs de l'Agence régionale de santé. Ils doivent apporter une réponse à une question, qui est à l'origine des cas de coronavirus dans l'Oise? Il y a urgence en effet, car plus on met de temps à identifier ce patient zéro, plus il peut contaminer. De personnes. En quelques jours, à partir d'un seul malade, environ une centaine de personnes peuvent être infectées. C'est ce qui s'est passé en Italie, par exemple, où le patient zéro n'a toujours pas été identifié.
Depuis hier, l'Italie fait partie des zones à risque. Mais pour cette mère de famille qui s'inquiète de la situation, des affiches devant les écoles, ce n'est pas suffisant.
Je pense que c'est plus large que ça devrait se passer, pas juste au niveau des enfants qui reviennent à l'école. Je pense que c'est déjà dans les aéroports, ça devrait se faire avant, ils auraient dû fermer le pays déjà depuis un petit moment, comme certains pays l'ont fait.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres.
Des wagons bondés, des RER, aux couloirs étroits, des stations de métro, la promiscuité est la règle. Cette voyageuse continue de prendre le métro, bien obligée pour aller travailler, mais elle se pose la même question que beaucoup d'autres.
Si les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits, pourquoi effectivement ne pas interdire de prendre le métro?
L'objectif, c'est de ne pas perturber davantage la vie sociale et économique.
Oui, je pense en fait que le gouvernement fait aussi ce qu'il peut.
Et les voyageurs aussi font ce qu'ils peuvent, sans céder à la panique.
Je fais juste un peu attention à ne pas trop laisser traîner les mains, une barre, les escaliers, c'est tout le monde qui touche, donc il vaut mieux pas te laisser traîner les mains et les laver.
Vous faites attention aux gens qui sont autour de vous?
Pas spécialement. Je trouve vraiment qu'on a créé une psychose inutilement.
Dans l'hôpital où est mort hier le premier patient français infecté par le coronavirus, le président s'est présenté en mode chef de guerre contre le virus.
On a devant nous une crise, une épidémie qui arrive. On sait que certains pays sont d'ores et déjà beaucoup plus même touchés que nous. Et on va devoir l'affronter au mieux, avec la vie qui continue.
Emmanuel Macron en bras de chemise s'est ainsi livré au jeu des questions-réponses avec les blouses blanches. Ça sert à rien de porter le masque, leur a-t-il par exemple demandé. Dites-nous quand c'est utile et pas utile.
Pas grand-chose à faire à Mulhouse si vous ne travaillez pas. Toute réunion de plus de 50 personnes est interdite. Les écoles, les musées, les piscines, les centres culturels, les bibliothèques sont fermées. Les rues sont quasi désertes, mais personne ne porte de masque.
Je ne suis pas stressée, je fais juste attention.
Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, je veux vous dire ce soir que je compte sur vous pour les jours, les semaines, les mois à venir.
Je compte sur vous, ces mots Emmanuel Macron les a répétés plusieurs fois tout au long de son allocution. Grave et solennel, il a essayé d'apparaître comme un président qui assume ses responsabilités et prend les mesures nécessaires mais sans céder à la panique. Il a donc annoncé la fermeture des écoles et des universités pour essayer de freiner la propagation du virus, mais pas le report des élections municipales. Une décision qui reçoit le soutien des partis politiques d'opposition.
C'est absolument inédit dans toute l'histoire de la Ve République. Première fois que les électeurs sont appelés à voter en pleine crise sanitaire au moment même où l'épidémie s'aggrave.
On avait préparé le bulletin à la maison, donc on n'a pris que l'enveloppe, on a voté et on s'est relavé les mains.
Ça aurait été quand même plus intelligent de reporter l'élection.
On ferme les églises, on ferme les bistrots, les restaurants, les ciné, tout ça, mais il fallait être logique, il fallait reporter les élections. Alors je suis quand même venu parce que c'est mon devoir civique, mais ça me choque.
RFI matin jusqu'à 8h30, gros plan sur ces municipales. Et maintenant, un grand point d'interrogation, votera-t-on dimanche prochain sur les plateaux de télévision? Hier soir, il y avait quasi unanimité à demander un report du second tour.
Le second tour n'aura manifestement pas lieu
compte tenu de l'aggravation prévisible de l'épidémie.
Si le gouvernement doit décider que le deuxième tour n'a pas lieu, alors il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser en connaissance de cause.
Mes chers compatriotes, après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
À partir de mardi midi et pour 15 jours au moins, tous les déplacements seront fortement réduits, annonce le président à 20h sur un ton martial en déclarant la guerre au virus.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Je sais, mes chers compatriotes, pouvoir compter sur vous. Vive la République. Vive la France.
Plus tard dans la soirée, Christophe Castaner sera, lui, beaucoup plus net.
Restez chez vous. Il s'agit de mesures de confinement, sur le modèle de ce que nos voisins espagnols ou italiens ont mis en place. Ce que le président de la République a décrit, ce sont les mesures les plus restrictives aujourd'hui en vigueur en Europe. Nous menons un combat. Nous le ferons respecter.
Le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs également précisé l'autre grande annonce présidentielle sur un report du second tour des municipales. Il aura lieu au plus tard en juin.
Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce mardi 17 mars, depuis quelques secondes, la France est confinée pour une durée minimum de 15 jours. Chacun doit donc rester chez soi et ne sortir qu'exceptionnellement.
Dans le quartier de Barbès, dans le nord de Paris, d'habitude, c'est la grouille de monde et d'activités, semaine comme week-end, avec ses boutiques de vêtements, de téléphonie, de produits africains. Et là, le boulevard est très étrangement désert. Par petits groupes, des gens apparaissent à la sortie d'une bouche de métro et se dispersent rapidement. Il n'y a des files d'attente que devant les pharmacies et les commerces de bouche. Le message semble avoir été entendu. Il faut dire que l'on risque 135 euros d'amende à sortir sans raison valable et sans attestation.
Je n'ai pas d'attestation parce que justement j'ai pas d'imprimante chez moi. Donc là, ce que j'ai prévu, c'est justement de la récupérer au travail. Donc sur le trajet, si je me fais contrôler, je ne sais pas comment je vais faire, mais bon.
À Paris, bien après midi et l'heure officielle du début des restrictions de circulation, ils étaient encore des milliers dans les gares de la capitale à tenter, coûte que coûte, de prendre l'un des rares trains encore disponibles pour fuir en province. Dans les aéroports internationaux du pays, même scène d'exode, mais des touristes cette fois qui tentaient, malgré ce premier jour de confinement, d'attraper un dernier avion pour rentrer chez eux. Un peu partout sur le territoire, les routes et les autoroutes se sont doucement vidées au fur et à mesure de la journée. En Ile-de-France, à 18h, à peine 1 km de bouchons cumulés enregistrés, contre plus de 300 d'habitude, un record absolu.
Avec 4 enfants à la maison, je vous avoue que ce n'est pas facile de s'improviser professeur de classe unique.
Non, c'est moi.
Astor, 5 ans, joue au jeu de loi des lettres.
Quand on tombe sur une lettre, il faut la dire et aussi dire un mot.
La probabilité d'obtenir un macaron au café est donc égale à 3 sur 12.
Chez les ados, Stella, 14 ans, rattrape ses cours de maths sur Internet. Quant à l'aînée de 17 ans, elle travaille allongée sur son lit.
Le bac, j'aimerais bien qu'il soit annulé, mais pas reporté.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, se donne jusqu'à la fin des vacances de printemps pour décider du maintien ou du report des examens.
Anthony n'est pas sorti dans la rue depuis 3 jours. Entre 2 sessions de télétravail, il s'occupe du jardin.
Bon, j'ai retourné un peu la terre, j'ai nettoyé, j'ai rempoté quelques plantes. On est vraiment privilégié ici.
Au 4e, Sylvain, lui aussi en télétravail, a adapté ses loisirs.
Je redécouvre depuis quelques semaines les grands romans de Jules Verne. Donc peut-être que la lecture de l'intégrale de Jules Verne va être plus rapide que je ne pensais. Le moral est bon. Je suis pas au contact du public. Je suis pas une caissière dans un supermarché ou obligée d'accueillir des gens. Là, il doit y avoir quand même des craintes.
Les habitants de cet immeuble prennent les choses avec philosophie et certains se retrouvent le soir à leur fenêtre pour remercier le personnel soignant.
C'est devenu un rituel dans toutes les villes de France. À 20h, on applaudit pendant 1 minute. Dans cette petite rue de la capitale où je suis confinée, cette habitante de l'immeuble, Margot, se joint aux acclamations depuis sa fenêtre.
C'est l'idée de se dire que le personnel soignant puisse entendre nos applaudissements et se sentir soutenu dans ces temps difficiles qu'ils vivent depuis déjà plusieurs semaines et certainement pour les prochaines semaines à venir.
Quentin Maréchal, habitant de Nantes, dans l'ouest de la France, a déjà pris le pli, confiné dans son appartement avec sa compagne.
J'ai ma sœur qui est à Strasbourg, qui me racontait, elle habite en face d'un hôpital, il y a pas mal de terrasses, de balcons, beaucoup de jeunes qui habitent là, et en fait là, ils sont tous sortis pour applaudir justement comme ils sont face à l'hôpital.
À l'hôpital de Mulhouse, l'afflux des patients est incessant. L'établissement a pourtant anticipé, réquisitionné des lits, interrompu sa chirurgie non urgente, rien n'y a fait. Tous les lits sont occupés. En réanimation, le nombre de malades placés sous ventilation artificielle a doublé en 24 heures.
Le Grand Est, c'est la région la plus touchée par le coronavirus dans l'Hexagone. 6 patients ont été évacués de l'hôpital de Mulhouse vers Toulon et Marseille ce matin. Franck Alexandre, l'armée met donc à disposition ses moyens logistiques, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron dans son allocution lundi soir.
Effectivement, premières évacuations sanitaires à Mulhouse en Alsace. L'armée de l'air déploie un avion A330 Phoenix MRTT dans sa configuration dite Morphée. L'avion peut emporter 12 blessés lourds et jusqu'à 30 blessés légers équipés en appareil de réanimation.
Emmanuel Seris est chef des urgences à l'hôpital de Sarreguemines en Moselle et délégué de l'Association des médecins urgentistes de France pour le Grand Est. Elle aussi est sur le pied de guerre, mais de chez elle.
Je suis confinée depuis vendredi parce que je suis symptomatique et j'ai été testée positive. Je fais partie des premiers de mon équipe à être contaminée, mais on va tourner.
Plus de 1700 morts, un chiffre qui ne prend en compte que les décès enregistrés dans les hôpitaux. Édouard Philippe met en garde ce matin contre la vague extrêmement élevée de l'épidémie de coronavirus qui déferle sur la France.
Il va falloir tenir, il va falloir rester extrêmement mobilisé. La vague épidémique qui a frappé la région Grand Est la première, qui est en ce moment en train d'arriver en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, dans d'autres régions françaises, est une vague extrêmement élevée et elle soumet l'ensemble du système de soins, l'ensemble du système hospitalier a une tension redoutable. Les équipes médicales font face avec à la fois beaucoup de précision et beaucoup de courage. Elles ont
difficile d'imaginer ce qu'il se passe derrière ces grilles à l'intérieur de l'hôpital gériatrique Léopold de Bélan. Il n'y a plus beaucoup de lits disponibles, très peu de patients rentrent chez eux, beaucoup arrivent chaque jour, raconte Isabelle Burnel, cadre infirmière au sein de l'hôpital.
C'est du non-stop. Là, dans les services, les filles, elles sont vraiment dans le jus, quoi.
Tout le monde est mobilisé. Le secteur public, le secteur privé, les hôpitaux d'instruction des armées. 7000 personnes se sont inscrites pour aider. Ce sont des équipes soignantes en Ile-de-France et en particulier 2500 infirmières. C'est évidemment très précieux. Merci, bravo à toutes et tous.
C'est des pères et des mères, docteurs brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés. Mais leur propre raison ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur. Oublions la fatigue, la peur, les heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories. À leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Ils sauvent des vies.
Ils sauvent des vies, chanson de Jean-Jacques Goldman en hommage à celles et ceux qui luttent contre le Covid-19. Suite de ce récit sonore demain, à retrouver en images sur notre site internet, page Grand Reportage.
Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci les boulangers, les politiques, les équipages, les cheminots, les militaires. Merci à tous ceux que j'oublie, les ambulances, les taxis.
chercheurs vont trouver, mais ils ont besoin de nous tous. Alors soyez prudents et soyez fiers.